France Inter.
C'est la bande originale, oui, avec Leïla Kazoudadi, avec Julie Conti, bonjour, avec Mélodie Fontaine, oh, oui, avec Alexandre Kemenek, avec Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour, Mélodie.
Et notre invitée, Clémentine, c'est la. Autant faire ça maintenant parce que après on va avoir du mal. Non mais le sujet.
On est une comédie légère.
On est ravis.
À péter de rire, absolument. C'est ce que je dis aux gens à la fin.
On part sur le mensonge. Alors ok, d'accord. Je suis la maman du bourreau, ce seul en scène où Clémentine évidemment est bouleversante. Je dis évidemment parce que vous savez à quel point nous vous aimons, Clémentine.
Merci.
Mais sur cet exercice-là, c'est très particulier. On va en parler. Déjà, être seul en scène, c'est particulier, mais le sujet est encore plus particulier, puisque la maman du bourreau, tout est dit, il y a un monstre, et comment sa maman le décrit, en parle, et peut-être sans le défendre, en tout cas, explique la manière dont les choses se sont déroulées. Et puis, ce qui est très délicat, c'est qu'on ne peut pas tout dire, évidemment, puisqu'il y a quelques rebondissements, il y a une évolution dans ce spectacle. Mais d'abord, jouons un peu la musique, c'est votre truc aussi, je sais, Clémentine. N'est-ce pas ?
Oui, à fond.
Bon. Reconnaissez cet interprète.
Alexandre.
Alexandre.
Daft Punk.
Non.
AC/DC.
Non.
Pink Floyd. Non.
Non.
C'est un truc.
Les Latino Rossi.
Non.
Les prêtres.
Les vêtements.
Non. Je vois bien, ça dure 45 secondes, hein, donc. Ah.
C'est pas les compagnons de la chanson.
Pas loin.
Les Rolling Stones.
Et donc, non, mais lequel des Beatles ?
Mais attends.
Paul ?
Non, laisse-la, c'est elle qui a la main.
Laisse-la.
Lequel des Beatles ?
Je parle.
Non, mais laisse-la.
Je veux.
Non, c'est elle. Pardon ?
Mon cher, vous travaillez.
Ringo Starr.
Tu te souviens pas du nom des Beatles ?
Bah, c'est John.
Ringo Starr.
C'est John, c'est Mother. Mother.
Exactement.
Sur l'album, oui.
Mother. Tu veux prendre le point à Clémentine Zellari ?
Je prends pas, je l'aide. Je prends pas son point. J'adore
la chanson sur le complexe
de Mother, exactement. Qui chante ça?
Tanguy, Michel Berger,
ouais. Daniel,
magnifique.
Daniel,
seras-tu là?
Daniel, France Gall.
Oui, Daniel.
C'est Véro?
Yes.
Non, c'est France Gall.
Ah oui, c'est maman, c'est d'accord. C'est bon.
Donc Mother, Lennon, Si Maman Si, France Gall. C'est bon?
Ouais.
Vous l'avez le thème? Qui chante ça?
Tanguy. Les Stones.
Oui.
Mother, Helper. Helper, c'est quoi?
Mother, Little Helper.
Les petites pilules, quoi, qu'on prend pour...
Mother, Little Helper.
Ah. Oui, voilà.
Merci. Oh, c'est bizarre comme ça.
Ah, moi, je peux.
Le geste était fou, hein.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui chante ça?
Maman.
Les âmes ont peur. Leïla.
Oui.
Louane.
Oui. Je suis pas bien dans ma tête. Maman. Maman. J'ai perdu le goût de la fête. Maman. Un point pour Clémentine, un point pour Leïla, un point pour Daniel, un point pour Tanguy.
Deux.
Allez.
Quoi, non, un.
Ah bon.
Ça va, Julie, Mélodie,
c'est Daron, on attend.
Qui chante ça?
Daniel, UB40?
Non.
Ah.
Bob Marley? Non, pas du tout.
Si oui. Vous connaissez.
Les Skatalites?
C'est français?
Ça s'appelle, non, ça s'appelle Mother and Child.
Bibi Shkoumoun?
Non plus.
Bibi Shkoumoun? Ziggy Marley? Non, pas du tout.
Archi connu.
C'est pas Yuri Forti. Non.
Ils étaient deux, il a fait carrière seul.
Laurel et Hardy.
Simon et Garfunkel.
Exactement.
Non.
C'est exactement.
Je l'ai dit comme une vanne.
C'est Paul Simon. C'est Paul Simon.
Chercher tous les Américains quand même.
Mais c'était Meyer Lawin.
Incroyable.
Vous connaissez pas ça?
Non.
Non, mais c'est vrai que Paul Simon, il a touché à tout, donc.
Mais il a surtout fait un album aussi très sud-africain, Late in the Evening,
compagnie.
Ah,
c'est vrai, d'accord.
Ouais.
Ça, on est plus à Kingston, mais ouais.
Qui chante ça?
Dans l'absolu.
Cœur de pirate.
Daniel, Metallica.
Non.
Cœur de pirate.
Non plus.
Pierre Perret.
Pas loin.
Ah. Jamais le moindre instant, Napoli, nos enfants.
Leila Adamo.
Adamo. Pas loin. Thomas Fersen.
Non plus.
C'est plus. C'est dans le temps. C'est déjà un son. Comme une espérance.
Nilda Fernandez.
Quoi, ouais, Nilda
Barzotti.
Non.
Un espoir comme un paradis mort.
Comme chanté. Richard Colchanté.
Cali.
Non, non, c'est génération.
C'est génération.
Adamo.
Qu'on voudrait
Adamo.
Retrouver.
François.
Qu'on voudrait retrouver.
Alain François.
Exactement, Clémentine Sarrié. Joli, bah, Gérard Le Nant.
Tu es mon seul amour. Tu es mon seul amour. Tu es mon grand amour. Ouais. Mon grand amour. Maman.
Ah,
bien joué.
Il y a de l'émotion.
Clémentine est en tête. Oh avec deux.
Eh ben, elle n'est pas gênée. Mais...
Tout se joue sur ce dernier morceau qui rapporte 3 points et peut-être la victoire. Qui chante ça ?
Orange.
Clémentine, tout à l'heure, vous avez donné leur nom.
Alexandre
Pink Floyd.
Exactement. Eh Pink Floyd, Alexandre.
Ah, non,
c'est...
ah ouais.
Ah, c'est Tanguy ?
C'est Tanguy. Ouais.
Pardon.
Et il y avait Nina Morato aussi, maman. C'était une chanson que j'adore.
C'est, ce sont les ouais, Pink Floyd avec Mother Victoire de Tanguy Passion.
Oh oh oh, c'est Clémentine qui a donné.
Bravo. France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leila Kadou.
Je suis la maman du bourreau. Tout est dans le titre.
Bravo.
Je suis la maman du bourreau. Comment définir ce bourreau ? C'est la question que je vous ai posée hors antenne juste avant de démarrer cette émission. Et
mais vous n'avez pas répondu.
Et si elle a répondu, il y a un choix de mots qui est important pour vous.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire d'amour, cette pièce. Ce n'est pas l'histoire d'un prêtre pédophile. C'est l'histoire de sa mère, en fait. C'est, je vous dis ça parce que...
C'est l'histoire gens... de l'amour d'une mère, en tout cas.
Oui, de l'amour, oui mais c'est très important parce que tout est vu à travers ses yeux. Je vous dis ça parce que... On va pas faire... vous voyez, non, mais je veux dire, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que c'est difficile en ce moment, le théâtre. Et les choses qui sont tragiques, les tragédies, les choses, c'est difficile aussi. C'est-à-dire que les gens
encore plus
hésitent.
Ouais.
Alors c'est pour ça que moi, quand je me suis dit que j'ai... D'ailleurs, merci de me recevoir déjà.
C'est normal.
J'allais vous parler avec vous de ce spectacle. J'allais dire aux gens, il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, on peut avoir peur du journal de 20h, par exemple, parce que c'est atroce ce qui se passe dans le monde. Mais je veux dire, on ne peut pas avoir peur de l'art. Et de, non, mais c'est un roman de David Lelaylo. Et moi, j'ai voulu faire le spectacle à partir de cette maman, en fait. C'est parce que je trouvais que c'était beau, cet amour déchiré, déchu, trahi. Et j'avais envie de parler du sacré. Le sacré, aujourd'hui, c'est quelque chose... Le sacré, c'est pas forcément la religion, c'est le sacré. C'est-à-dire la beauté de l'âme, ce qui nous dépasse. Et je trouve que c'est très important. Moi, j'avais envie. Donc voilà, pour moi, si vous voulez... Alors, c'est comment dire... Il y a des merveilleux critiques et tout ça, mais c'est vrai que les gens ont peur de... Parce que, voilà. Mais je ne parle pas de pédophilie, ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Non, mais je vous dis pas ça.
C'est la toile de fond de l'actu, de toute façon. C'est une réalité.
Il se trouve que...
Oui, mais le spectacle ne parle pas de cette réalité.
Je sais bien.
Le côté monstrueux de l'enfant, c'est un prêtre pédophile. La pièce et votre personnage, c'est une maman qui aime son enfant, qui l'a aimé, qui l'a adoré, qui l'a accompagné, qui l'a porté.
Trop, elle lui dit.
Voilà.
Oui.
La question même peut se poser de savoir à quel point les parents doivent assumer aussi les erreurs de leurs enfants, quelles que soient ces erreurs. Ça serait un dealer de
cocaïne,
un terroriste.
Absolument.
Voilà. Comment une mère peut continuer d'aimer
son enfant
malgré les horreurs. La question c'est, ça reste mon enfant, je l'aime quoi qu'il arrive, ou... C'est la question, sans dévoiler ce qu'il y a dans la pièce.
On peut en parler un peu, de toute façon...
Mais c'est, la question est là. Jusqu'où va l'amour d'une maman en fonction du comportement de ses enfants ?
Oui, et surtout, comment elle réagit quand elle apprend que son fils est un monstre ? Parce que il est pédophile, c'est un monstre, il est malade, la pédophilie c'est une maladie. Donc comment est-ce qu'elle fait alors c'est tout le parcours, si vous voulez, spectacle, c'est le parcours. En plus moi je joue les personnages du journaliste à travers lequel elle l'apprend, je joue Adrien la victime, et il y a beaucoup d'amour évidemment quand elle rencontre Adrien, parce qu'elle veut rencontrer, quand elle apprend que son fils a fait cet acte monstrueux, je vous tourne pas le dos, c'est juste parce que voilà. Et donc quand elle apprend ça, elle veut rencontrer la victime. Et donc, j'incarne, enfin, Gabriel de Miremont incarne.
Vous modifiez même votre voix pour, pour interpréter
Adrien. Oui, parce qu'elle... Ouais. Donc, c'est son voyage comme ça, elle se souvient de tout ça. Donc, si vous voulez, il y a tout un... Le truc, c'est comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle a vécu et qu'est-ce qu'elle va faire. Mmh. Parce que ce qu'elle va faire, quand même, elle, c'est peut-être son fils et elle l'aime... à tel point qu'elle veut le sauver d'une façon... On va pas dire la fin, parce que s'il y a des personnes qui veulent venir...
Évidemment qu'il y a des personnes qui veulent venir, mais en plus, on va les encourager à y aller, parce que c'est bouleversant.
Ils vont y aller, alors est-ce qu'ils vont rester ?
Et on commence à avoir de l'empathie pour cette femme, c'est-à-dire que c'est aussi ça qui est intéressant dans la pièce, c'est le voyage qu'on fait nous aussi.
C'est ça.
Au début, on a quand même une femme un petit peu rigide, un peu comme ça, qu'on a très envie de détester. Et puis progressivement... son humanité, dans l'affection qu'elle porte à son fils, dans son envie de comprendre sans pouvoir comprendre l'impossible, elle nous émeut en fait cette femme.
Merci beaucoup. Oui. Et la culpabilité, parce qu'évidemment, jusqu'où, à partir d'où et jusqu'où on est responsable.
Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il en arrive là ?
Moi, je me suis posé des questions.
Je suis la maman du bourreau, non mais et on se pose des questions quand on est parent en voyant cette pièce, en se disant à quel point justement on est responsable ou pas, et qu'est-ce qu'on a pu mal faire pour enfanter un monstre.
C'est un plaidoyer pour la contraception.
Qu'on soit maman. Non.
Voilà. C'est bien perdu ou pas ?
C'est Julie Conti, vous n'auriez pas fait sa pièce comme ça.
Alors au niveau de la pièce, je sais pas ce qu'il fallait faire, mais moi ce que j'aurais pas dû faire, c'est accepter de remplacer Lisa Delmoitier ce matin. Hein, déjà, elle est belge, je suis suisse. Dans la pièce, il y a un pédocriminel, donc on est clairement sur de l'appropriation culturelle. Et en termes de rigolade, avec cette pièce, on est servi. Au menu, le chef vous propose un prêtre pédocriminel, des enfants abusés, des parents catho-intégristes et Gabriel, une mère qui culpabilise. Allez, suivez-moi, je vous embarque sur l'autoroute de la poilade. Donc la pièce, c'est le monologue de cette mère Gabriel qui nous parle de son fils qui est un criminel, la maman du bourreau, d'accord, mais le papa du bourreau, on en parle. Si la pièce avait été une introspection du père, on tenait pas 1h15 sur scène. Hein. Mon gosse a fait de la merde, ben c'est la faute de sa mère. C'est terminé, ça part au Molière. Et en fait, cette pièce, elle a ajouté à ma charge mentale de mère. Moi, j'avais déjà l'esprit occupé en m'assurant que mes enfants aient bien terminé leurs devoirs, qu'ils aient bien pris leur douche. Et maintenant, sur la liste, j'ai ajouté s'assurer qu'ils deviennent pas des pédocriminels. Et le souci, c'est que autant il y a pléthore de mamans influenceuses pour te filer des petites astuces pour que Mathis finisse bien tous ses légumes, mais pour te donner des conseils pour qu'il évite de toucher le petit Adrien dans le presbytère, il n'y a personne. Hein. Et moi, je comprends. La pauvre Gabrielle, on culpabilise sans arrêt quand on est mère. Est-ce que je les aime assez ? Est-ce que je les aime trop ? Est-ce que je leur dis assez que je les aime ? J'ai le sentiment que la génération de mes parents disait moins je t'aime à leurs enfants. Ça passait plus par des preuves d'amour. Dans ma famille, le langage de l'amour, c'était la bouffe. Et avec une mère espagnole et un père du sud-ouest de la France, mais je t'aime à moi, c'était de la paella et du cassoulet. Ça laisse des traces. Hein, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, mes parents m'ont beaucoup aimé. Hein. Et on m'a déjà fait la remarque, comme quoi je disais trop souvent à mes enfants que je les aimais, parce que je leur dis plusieurs fois par jour, je t'aime. Je leur dis aussi plusieurs fois par jour, mais pas ça dans ta bouche, il y a un chien qui a pissé dessus. C'est aussi une preuve d'amour. Hein. Et dès qu'on a des gosses, on s'épuise à essayer d'être une mère parfaite, mais être un parent, c'est forcément le traumatiser un peu, malgré toi. Tu peux tout faire parfaitement 50 fois, le gosse, il retiendra que la fois où c'était pas nickel. Hein. À chaque vacances, tu l'emmènes dans des super endroits en vacances, et la seule toute petite fois où à 4 ans, tu l'oublies au mois d'août sur une aire d'autoroute. Tu peux être sûr qu'il va te sortir ça comme argument pour justifier tous ses échecs futurs. Hein, je l'entends déjà à 40 balais. Ma start-up, elle a fait faillite. C'est parce que ma maman m'a laissé sur la 7 pendant le chassé croisé du mois d'août. Oh, ça va, change de disque. Hein, j'ai fait demi-tour après, à peine sans borne. Et puis d'un autre côté, il faut relativiser toutes les petites bêtises d'enfant. C'est pas le signe qui terminera complètement sociopathe. Par exemple, moi, à 6 ans, une fois, je suis entrée par effraction chez une copine de classe pour lui voler ses poupées. Et après, je les ai coulées dans du ciment.
Sympa.
Et pourtant, je suis très équilibrée. Hein J'ai pas terminé d'en fait entrer l'accusé. Non, moi, je suis dans la bande originale. Je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais non. Pour ma défense, tout ça, c'est la faute de ma mère.
Yes. Merci, Julie Conti.
Julie Conti sur scène à Décines le 5 avril, le 9 avril à Genève et le 12 avril à Chamouson.
On rentre dans l'âme humaine, dans l'amour maternel, et elle a raison, ça pourrait être un papa qui se pose la question, ou est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs dans le fait que ce soit une maman ?
La culpabilité.
Oui, parce qu'elle elle commence en demandant si elle parle, parce qu'elle parle à l'univers, Gabrielle, elle parle aux gens, donc dans la salle, et elle dit, est-ce que Les mères se souviennent-elles de l'instant minuscule où elles ont conçu leurs enfants? Elles racontent...
Elle parle pas de l'orgasme, d'ailleurs, elle le dit.
Non, pas du tout, parce qu'elle préfère l'extase au plaisir. Mmh. Oui, elle est vraiment très, très religieuse et très... elle est amoureuse de Dieu, en fait. Elle est,
très bigote, oui.
Comment?
Très bigote.
Voilà, mais... Ouais, bigote, pour moi, je comprends ce que vous dites, mais...
Au début,
moi,
en tout cas.
Je lui ai donné beaucoup, peut-être plus de... Mmh. De moi, de Myriam, que je vous ferai présent, de mon amour, je sais pas, de ma foi peut-être, de mon espoir en l'humanité, plus j'ai mis un peu ça dans Gabriel peut-être.
Non mais vous mettez vos tripes, et d'ailleurs le geste est là aussi du ventre en disant, il était là, en moi,
dans mon ventre,
il était dans mon ventre et il devient un monstre. Oui. De là se posent toutes les questions sur ce qu'elle vit comme une trahison, finalement, avec cet amour qu'elle a donné.
Oui, une immense trahison. Mais elle reconnaît qu'elle n'a pas eu... Il y a un truc par rapport à ce que disait Layla, c'est la tendresse. C'est-à-dire qu'elle a, elle reconnaît qu'elle n'a pas eu de tendresse. Et elle comprend petit à petit, hein, parce qu'elle fait une introspection, que peut-être que c'est une des raisons aussi. De...
Ouais, mais est-ce que ça voudrait dire que tous les monstres
ont
manqué de tendresse? Non, mais je pose la question. Est-ce que d'ailleurs ils ont ces espèces de points communs?
Ils ont souvent des c'est quand même des histoires toujours un peu douloureuses. Enfin, souvent, en tout cas, dans les serial killers. Mais en tout cas, c'est intéressant. Elle cherche une réponse. Donc
j'ai toujours un peu peur des témoignages que l'on voit dans les journaux, aux infos, de en disant je ne comprends pas, c'était quelqu'un d'équilibré, de gentil, je ne comprends pas pourquoi.
Voilà. Toujours ça.
Il disait bonjour,
il aidait
la dame à porter les sacs, et puis je ne comprends pas.
Et d'un coup,
il a pris un couteau et puis il est allé tuer des enfants.
Dans le cas des serial killers, souvent, quand même, tu sens que ça va pas dès le départ, quand même.
Il y a rarement un père.
Oui, il y a rarement, ouais.
On évoquera, on parlera avec tout à l'heure avec Frédéric Ploquin, qui est journaliste.
Qui vient de sortir après 25 ans.
C'est génial.
Comment choisir le bon couteau? C'est le titre de son livre.
Couteau à steak.
J'ai arrêté de faire les vannes sur la série qui est un perso. Les familles de criminels. Et cette notion de victime aussi, victime collatérale. C'est-à-dire que la maman est également une victime de ce monstre.
Oui, et elle est aussi... elle se prend... Alors, elle pense que son fils est le meilleur d'elle-même. Elle pense que son fils est son prolongement merveilleux, parfait. Parce qu'en fait...
Elle est aveuglée par l'amour qu'elle a pour son fils.
Complètement aveuglée, parce qu'elle pense que son fils un peu est le fils de... C'est-à-dire qu'elle a l'impression que c'est le fils de Dieu, quoi. Ouais. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a décidé qu'il était prêtre quand il était tout petit. C'est peut-être aussi ça... Bon, comment dire? C'est peut-être un peu spécial, quoi, on va dire.
Vous voyez ce que je veux dire? Elle a offert son enfant à Dieu.
Un peu. Elle s'est dit, il est prêtre, c'était le fils de Dieu. Donc, forcément, alors il était merveilleux, il a grandi, mais voilà, et puis à un moment donné, 30 ans après, qu'il soit prêtre, elle découvre que c'est un monstre. Donc, mais alors après, comment dire, on ne parle pas là d'un fait divers, évidemment, on parle d'un roman, vous voyez, de David Lelaello, d'une fiction. C'est-à-dire que c'est une tragédie, en fait, ce spectacle. C'est
mais son intelligence, c'est de se placer, justement, à la place des parents de monstres, à la place des parents du bourreau, et de... Tous les parents disent... Forcément, je vais faire un truc qui ne va pas. Forcément, je vais pas être la meilleure mère ou le meilleur père. Mais personne ne se pose la question de savoir comment il ou elle réagirait en étant convoqué à un commissariat et en disant, voilà, votre enfant a fait telle et telle chose. Et à quel point on l'assume, à quel point on se sent coupable, à quel point on vit cette trahison ultime de l'amour que l'on a donné, de la vie que l'on a donnée, entre guillemets. Et de l'erreur que l'on a commise peut-être à un moment dans l'éducation, en effet.
Oui. Mais moi, ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est les grandes oscillations. C'est-à-dire que c'est l'extrême foi, l'extrême espoir dans l'humanité, la pureté de cette femme, parce qu'elle est vraiment pure, mais dans le vrai sens du mot, et en même temps, cette trahison, quoi. C'est le grand, c'est le déchirement. Moi, c'est ça que j'aime.
De
c'est ça que j'aimais dans mon passé.
L'extrême à l'extrême onction, quoi.
C'est le monstre. C'est ça m'intéressait. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est on est au théâtre. On n'est pas, non, mais vous comprenez,
vous avez raison. Parlons du théâtre et du travail de ce théâtre. Au-delà de votre formidable interprétation,
merci.
Il y a toute la mise en scène qui vient comme un étau qui se resserre sur son crâne, sur sa vie, qui tout l'oppresse, y compris l'évolution du décor, y compris la lumière. Et là, on est dans de la dans l'excellence et dans la belle joaillerie, j'ai envie
Merci.
De dire.
C'est la dentelle.
C'est vraiment
Merci.
Exactement. Ouais. C'est d'une précision incroyable à un point où c'est comme un morphing énorme qui se passe autour de vous.
Et, Merci.
Et on se demande ce que si on a bien vu ce qu'on a vu, quoi, que vraiment tout se la
gentil.
Comprime.
C'est Hermann Batz qui est le scénographe, qui a fait la lumière aussi. Et on a bien bossé ensemble et c'était vachement important parce qu'au départ on ne sait pas trop où elle est. Elle est dans une espèce, c'est un lieu
soit chez elle, soit dans un appartement.
Dans un cloître,
Et il y a une énorme croix qui trône
au fond.
Milieu.
Oui,
voilà.
Moi j'ai pensé au film En mille morceaux.
Ah oui. Oui, c'est vrai.
Sorte
que
de pendant, il y a.
Absolument,
là,
absolument.
Vous incarnez...
Qui est sorti en DVD d'ailleurs.
Voilà,
j'ai pensé à l'exorciste, moi.
Ouais. De Véronique Mériadec, c'est ça, où vous incarnez la mère d'un enfant qui a été tué.
Qui a été tué, et violenté et tout ça.
Et vous rencontrez le
bourreau.
Le bourreau.
Ça, c'est très important. Ça, c'est autre chose, c'est la justice réparative.
Ouais.
Ça, c'est hyper important.
Et là, il y a une sorte de tentative d'auto-réparation.
Mais c'est marrant, merci de parler de ça, Leïla, parce qu'en fait, quelquefois, me dit pourquoi vous avez fait ce spectacle.
Ouais, pourquoi ?
En fait, je l'ai fait parce que justement pour ces raisons-là. C'est-à-dire que je pense que c'est, enfin pour moi, c'est important d'abord d'aller dans des sujets qui sont pas faciles. Parce que sinon, bah oui, peut-être la prochaine fois, je ferai une CLS, comédie légère à succès. Tu vois un truc, bonjour. Non, mais je rigole, mais ça me fait tellement du bien de rigoler avec vous,
CLS.
Ceci, parce que c'est vrai que le soir, je me mets en Gabriel, les cheveux en arrière, bam, je prends 10 ans,
pas,
les lunettes, ouais.
Vous
ne devez
pas sortir indemne du spectacle.
Non,
mais.
Oh, si, parce que c'est mon. Si, parce que ça me fait du bien, ça me lave et puis ça me fait du bien avec le public. C'est merveilleux de partager ça. C'est un partage de fou. Il y a des silences.
Mais ça fait réfléchir.
Les gens sont pris par. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'était du théâtre, quoi. On n'est pas à la télé devant la télé-réalité. Quoi.
C'est des sujets forts.
Soyons précis. C'est intelligent, c'est bien joué, c'est bien mis en scène et éclairé. C'est au théâtre de la Pépinière, qui est en plus un très beau théâtre. Je suis la maman du bourreau, l'adaptation du roman David Le Léelo. C'est vous qui l'avez adapté ?
Oui, je l'ai adapté. Oui. Mais oui, parce que j'étais. Vous savez, quand on tombe amoureux d'un livre, comme c'était le cas, j'ai une libraire à Crozon, enfin un truc de fou, quoi. On cherchait, parce qu'on avait un créneau, j'avais un créneau à Avignon, mais j'avais pas de spectacle. Bref, et je suis tombé par hasard, mais il n'y a pas de hasard.
C'était en 2023, l'année dernière,
Avignon 2023. C'est un livre génial que je vous conseille absolument. C'est écrit comme un thriller,
très élégamment, vous citez Hermann Batz pour la lumière et la scénographie, mais c'est un peu vous quand même qui avez aussi décidé de la mise en scène.
On fait ça à partir du moment où on travaille avec un scénographe. En fait, on se dit comment on voit les choses. On a beaucoup discuté avec mon producteur Jérôme Fouché qui m'accompagne depuis 10 ans maintenant. Et du coup, c'est lui qui a eu plein d'idées. On a eu des idées un peu dingues qu'on a mis. Parce que moi, je voulais pas qu'il y ait de blasphème. Je voulais absolument pas qu'on crache sur la religion. D'ailleurs, je rêverais qu'il y ait des prêtres et des bonnes sœurs qui viennent, qu'on puisse discuter, et j'ai rencontré des personnes musulmanes, des personnes juives, des personnes protestantes, j'aimerais beaucoup, parce que je trouve que c'est très intéressant de parler de tout ça, pas de la pédophilie évidemment, mais de la religion, enfin de la foi en tout cas, de la foi. Et donc, ça se fait ensemble.
Écarté des mises en scène ou des choses dans la mise en scène qui
étaient
trop... Non,
mais parce qu'il y avait des idées. Ouais. Le scénographe, il est un peu dingue, c'est un peintre incroyable. Il y avait des trucs, à un moment donné, on avait envie que le lit.
Le bureau.
La scène.
Dans la croix.
La barre horizontale.
La barre horizontale.
Soit basse.
Tombe, à un moment donné, que ça fasse comme ça. Oh non, mais comme une guillotine. Genre, bon, on s'est dit, c'est peut-être un peu trop, puis il va y avoir des gens qui vont mourir pendant la représentation, donc on ne veut pas tuer des gens.
Et là, vous avez raison, ça aurait directement stigmatisé une religion,
Moi, je ne veux pas ça. Et au contraire, c'est l'idée d'ouvrir et de. C'est pour ça que cette femme. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand on a un coup de foudre pour une œuvre, c'est tout vient. La mise en scène, j'ai été aidé de Laurie André, qui était mon bras droit. Mais en fait, tout là, ce qui est bien, c'est quand on est seul, c'est qu'on peut améliorer le truc de jour en jour, donc c'est formidable. Et voilà. Et donc merci Herman Bass qui a fait une super scénographie.
Je suis la maman du bourreau.
Et Abraham Diallo qui a fait le son, pardon.
Je vous en prie.
Voilà, et Gustave Wachard qui a fait un peu la musique. Voilà, bon,
voilà, très bien. Ah, ça, c'est la musique de Gustave.
Oui.
Qui nous rappelle donc cette ambiance ludique et folle qu'il y a sur scène.
Arrête de dire ça.
Je suis la maman du bourreau, spectacle intelligent, urgent à voir et qui prête à réfléchir. Maggie. Notamment, et moi je le dis sincèrement, évidemment qu'il y a toute la notion du sacré, mais et là c'est le papa qui parle, c'est vrai qu'on se dit, et comment je réagirais si mes enfants faisaient une erreur, une horreur, un crime à quel point, qu'est-ce qu'on a loupé? Et puis à quel point aussi, on assume, on l'accompagne, ou au contraire, on le rejette, on le renie, parce que là aussi, tous les cas de figure sont possibles et imaginables.
Il n'y a plus qu'à se souhaiter de ne plus être de ce monde.
Arrête, il y a souhaiter que, surtout que ça n'arrive pas. Voici Mélodie Fontaine.
Alors, moi, j'ai reçu ma facture de régularisation Engie, là. Alors, rien de grave, hein, j'aimais pas tant manger que ça, finalement. mais c'est quoi, en fait, cette facture? Je sais que je débarque, j'ai 150 d'âge mental, mais ça me paraît pas dingue de demander quand même qu'est-ce qui s'est passé avec le prix de l'énergie. Pour être devenu si cher, l'électricité, ça doit être créé dans des lieux très très dangereux, c'est pas possible. En Ukraine, dans le Mordor, ou dans le slip de Pascal Praud, enfin, je ne sais pas. Non, mais j'ai si peur de consommer que je recharge plus ma brosse à dents électrique. Je me frotte les crocs avec le petit bout en plastique. Ça prenait 3 heures. J'ai arrêté l'odeur. Ce matin, c'est pas les chaussettes de Daniel, hein, c'est ma boîte à chicots, hein, je vous le dis, hein, les gars. Je mets plus de chauffage non plus, je superpose les couches. Je suis un oignon. Odeur incluse. Elle se confond avec celle de ma bouche, donc voilà, je pue la boulamite. Aucune contre-pétrine.
Non. Oui, non, voilà.
Bref, tout ça pour vous dire que je suis passée, accrochez-vous bien, de... Vous n'êtes pas accrochée, Leïla, je vois. Accrochez-vous, mon Dieu.
Si elle s'accroche elle-même.
Je réalise, je suis passée.
Je suis lente.
De 160 euros par mois à 320 euros par mois. Ah, mais je vous dis tout, je suis un livre ouvert. Enfin, je suis un livret A ouvert, hein, à ce niveau de jeu. Alors, je sais ce que vous vous dites. À comédienne, attends, avec sa carrière de dingue, elle doit avoir un atelier d'artiste de 350 mètres carrés en plein centre de Paris, sur l'île Saint-Louis, avec piscine à débordement et balançoire à cul électronique. Eh ben non, je me plains pas, mais j'ai un 60 mètres carrés dans un quartier populaire, de radiateurs et un lit de place. Froid le lit, les gars. 60 mètres carrés, c'est pas rien. C'est le hall des toilettes de Nagui, mais c'est pas tant que ça. 60 mètres carrés, si vous voyez pas, c'est environ 20 sénateurs. Et j'ai pas compté Gérard Larcher. Non, mais 60 mètres carrés, si vous voyez toujours pas, c'est comme l'intérieur d'une actrice porno, très expérimentée. Tu penses qu'à plusieurs, ça va passer et que tu seras à l'aise, et effectivement, ça passe, mais tu te cognes vite au bord et ça sent le renfermé. Mon appart, c'est un T3. Si tu ouvres la porte du frigo, ça devient un T4. Il faut réduire sa consommation et vivre à 19 degrés, améliorer son pouvoir d'achat et en réduisant sa facture, je sais même pas qui j'imite, et participer aux efforts collectifs consentis en faveur de la transition énergétique. Je conseille le gouvernement entre deux hammams maçonnés, mais t'es gentil mon grand, c'est toi qui bousilles ma planète et qui contribue à la facture énergétique et c'est à moi que tu demandes de me doucher en combi de plongée. Je vais te peler avec une râpe à pied, sac à crotte. C'est comme si quelqu'un qui c'est ma montre et au lieu de me la remplacer, il me donnait un cadran solaire. C'est comme si le ministre de l'écologie luttait contre c'est celui qui dit « Ah, ça m'énerve !» Voilà. Ça m'énerve et ça me donne chaud, cette histoire. Oh là, tout est calculé, ils sont forts, ça y est, j'ai chaud et en plus, c'est gratos. Naise.
Merci. Mélodie Fontaine, bouillante.
Chaude.
Bouillante et brûlante. Au point virgule, tous les mardis soirs. Hier, c'était génial.
Nous sommes au théâtre de la Pépinière avec Clémentine Célarier. Cette pièce qui est née en Avignon, ou à Avignon, je crois qu'il faut dire à Avignon.
Avignon, c'est...
Ouais, c'est une espèce de branchitude...
C'était compliqué.
Merci, Léla.
Non, mais ça va être long.
On va continuer de parler du sujet des criminels. professionnels et surtout comment les familles, parce que là c'est le propos est sur la maman, mais on peut se poser la question de toute la famille, lorsque toute une famille découvre qu'au sein de la famille il y a un monstre qui est voilà, qui a agi, et il y a même plus il y a un petit moment de débat, de suspicion au début en disant mais je ne peux pas croire que ce soit vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même la stupeur qui vient la frapper au tout début de la pièce avant qu'elle finisse par accepter, par reconnaître que son fils est un monstre.
Au départ, elle ne se doute pas du tout quand elle apprend par la presse qu'il y a un cas de pédophilie, enfin un cas de monstruosité, qu'il y a des cas de viol dont elle ne peut pas croire, donc elle va voir son fils. Et c'est ça qui est génial.
Le journaliste d'abord pour
savoir si c'est vrai. Oui, le journaliste d'abord, absolument. Ouais. Mais après, elle va voir son fils en lui disant, vous vous rendez compte, ils se disent, vous, ils sont des aristos. Et vous vous rendez compte, mon fils, il lui dit, mais mère, enfin, parce que le truc, c'est que quand on est comme ça, pédophile, on est complètement, on est malade. C'est-à-dire qu'on ne, on ne prend, vous comprenez, il y a une espèce, c'est vraiment une maladie. C'est-à-dire que j'ai une copine psy qui m'a dit, si on disait, un prêtre pédophile, regarde, c'est ça, qui on lui montrait
ce qu'il faisait,
c'est ça que tu as fait, il dirait, il serait, vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a un truc de complètement de déni,
de dédoublement aussi, de,
ah ben,
de
oui, oui, enfin, c'est une maladie, quoi. Voilà. Okay. Bon. Donc oui, elle va voir son fils et elle sait pas qu'il est monstrueux, et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'elle croit jusqu'au moment où Adrien, la victime, lui dit que je joue aussi. Donc de toute façon, il y a un dédoublement, un détriplement, des quadruplements où Adrien lui dit, mais c'est votre fils, en fait. Parce qu'il lui décrit tout ce qu'il vit, lui, et il le décrit avec beaucoup de pudeur, hein, parce que c'est très pudique aussi. Moi, j'ai pas voulu... Le roman est plus...
Cru.
Mais un roman, quand on le lit, c'est autre chose. Mais quand
on prend les images que l'on
voilà,
veut prendre.
Voilà, c'est pas la peine de dire un truc, une horreur pour l'imaginer. Mais voilà, donc là, en fait, il lui parle de ce qu'il a vécu, et avec beaucoup d'humanité. Ce personnage est magnifique, évidemment. C'est le plus beau personnage, enfin, avec elle.
Vous dites c'est un monstre et il est malade. Les deux mots vont pas forcément toujours ensemble. Heureusement pour les malades.
Oui, bien sûr.
Entre guillemets.
Ah ben oui, bien. Non, mais il est un
maladie,
pédophile est un malade.
Une maladie se soigne.
Oui, sauf que... Oui.
Est-ce que la monstruosité d'un terroriste...
On peut être emprisonné aussi, oui.
Est-ce que la monstruosité d'un terroriste, d'un pédophile se soigne?
Tu peux dire qu'il est malade, donc ça en fait un malade, si c'est un pédophile. Donc ça veut dire qu'il y a une prise en charge potentielle.
Non, mais je ne sais pas.
Un terroriste, on peut imaginer que c'est un mec qui s'est fait laver le cerveau, ou qui en tout cas est...
Donc c'est toi qui réponds à la question.
Ah pardon. Non, mais ça m'intéresse en plus. Parce que je trouve que le mot monstre, il est trop commode. De dire que d'un individu que c'est un monstre, ça le supprime de l'humanité.
D'accord, je comprends.
Or l'humanité, elle est constituée de plein de vices et vertus, bien sûr. Donc dire que quelqu'un était un monstre, c'est quasiment...
Tu peux pas t'empêcher d'avoir cette réaction.
Oui, mais c'est quasiment le dédouaner. Alors que...
Ah oui, non, mais là, voilà. Le dédouane pas du tout. D'autant qu'à la fin, le dédouane vraiment pas du tout. Non. Pardon, Leïla, mais tout va bien, on discute, c'est chouette. Non, mais quand je dis monstre, c'est parce que, la pédophilie, c'est tellement monstrueux que c'est au-delà de l'entendement. C'est pour ça que moi, c'est dans ce sens-là que je... Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir en l'humanité, de toute façon, je ne m'en cache pas, et je me dis que tout peut se soigner, se guérir. Mais bon, après, je n'ai pas d'enfant qui est...
On le souhaite à personne. Je suis la maman du bourreau, portée par Clémentine Sélarié, adaptée, mise en scène par Clémentine, jouée par Clémentine, et tout ça au théâtre de la Pépinière, à voir absolument. Tout à l'heure, donc Frédéric Ploquin, notre invité journaliste, viendra nous parler de la manière dont une famille subit la présence d'un criminel au sein de la famille, sûrement des histoires vraies et vécues. La musique dans votre vie toujours présente. Cette musique, évidemment, Clémentine Sélarié, en 1980, vous écoutiez...
Ça, c'est un truc de funk, mais alors, les gens qui aiment la funk, ils ne connaissent jamais ça. T-Connection.
Impossible de ne pas danser.
Non.
La musique sert à danser pour vous, avant tout?
Ah oui, moi j'adore. Il n'y a pas longtemps, j'étais au festival Cérimania avec ma copine Laurence Herbert, qui à Lille, et il y avait un DJ. Enfin, donc j'y vais, je prends le micro, je fais du freestyle. Je ne peux pas. Ah bah si, je continue. Donc avis aux DJ d'ailleurs, qui peuvent écrire ici. Moi je chante et vraiment, on ne sait pas que c'est moi. Je me tourne, mais je chante pendant toute la nuit, j'adore. Avec Charles Schilling, j'avais fait ça. Enfin, ça c'est merveilleux. Non, mais parce que c'est des concerts improvisés, pardon.
Et on vous retrouve en 80, animatrice de radio à Radio 7.
Oui. Ici
Ici, bien sûr, dans la maison de la radio.
Et c'est là qu'on vous baptise Clémentine.
Oui, Patrick Meyer, absolument, qui m'a dit « Écoute, Myriam, c'est sympa, mais tu rigoles tout le temps, il faudrait un nom de fruit et tout ça, les gens ne se souviendront pas Myriam. » Donc, Clémentine, tac, voilà. Oh.
Ouais. Ça, vous avez échappé quoi ?
Ananas ?
Orange ?
Oui, c'est voilà. Pamplemousse, ananas,
banane. Ananas, c'est dur. Ananas, c'est là.
Pamplemousse. Tout de suite, pamplemousse avec le hit parade. Patrick Meyer, petit clin d'œil quand même, c'est lui qui a lancé RFM à l'époque. Radio rock, radio de toutes les couleurs. Coluche ou encore Laurence Boccolini.
Et son vrai prénom, Kiwi.
Kiwi. Et comment on fait, Clémentine, quand on est un oiseau de nuit et qu'il faut être à la radio tôt le matin?
Ben on ne dort pas. Alors on va direct du palace à la radio.
Et à un moment, on s'écroule?
À un moment, oui, on ne va pas le matin. Et puis papa, ma chérie. Non, mais c'est drôle, c'est papa qui m'avait réveillée, c'est incroyable.
Et après, on vous a confié la nuit quand même, parce que c'est plus logique.
Oui, c'est mieux, c'est plus adapté. Voilà. Avec Sydney, tout ça, que j'allais à l'Émeraude après, et ensuite au Palace. Moi, j'avais tout un trajet.
Okay. Sydney, à Chipé, à Chopé ?
Ah, ben bien sûr, oui, oui. J'allais à l'Émeraude, une boîte qui a fermé maintenant. Et,
à cause de vous, c'est ça ?
Mais non, pas pourquoi.
Je sais pas, je demande.
Non. Maintenant, je vais comme je reviens du théâtre, je passe par la machine, donc et le bus est fermé.
Le Spaladium,
détruit.
La machine, c'est à côté du Moulin Rouge à Paris pour ceux qui ont envie de vous croiser un soir.
Oh non, mais arrêtez. Ou le Sub, qui est une nouvelle boîte avec mon pote Victor, absolument, qui est vachement bien. Oui, absolument. Je t'ai vu l'autre jour d'ailleurs. Voilà. T'es complètement bourré.
En 80.
On s'appelle Ananas.
En 86.
C'est vrai que c'était pamplemousse.
En 86, Clémentine Serrier, vous écoutiez Venus.
C'est ça, avec ma copine Lélise, on fait des chorégraphies. Venus, c'est génial.
C'était les Bananarama qui avaient. Qui s'appelait comme ça, c'est Patrick Meyer qui a dit il faut s'appeler Banane quelque chose. Bananarama qui avait repris ce titre Shocking Blue. Ça vous renvoie donc à une copine.
Ça me rappelle Lélise, vous voyez, que je vois jamais, une grande copine. Qui mais je vois jamais personne parce que je travaille tout le temps. Bref.
Et très peu après vos débuts au cinéma, vous êtes nommé au César pour 37 de le matin. Vous êtes nommé ensuite aussi pour Nocturne Indien. C'est le début d'une carrière sur grand écran avec un film très très fort. Vos débuts, c'est avec Sauté.
Oui, Claude Sauté, c'était génial ça. Oh, Claude Sauté, un amoureux du cinéma, il faut regarder, hein, même les jeunes générations, Vincent François Paul et les autres, tout ça, César et Rosalie, c'est d'une poésie, c'est génial. Moi, mes enfants regardaient beaucoup de films de Sauté et c'est magnifique.
C'est des débuts fous, Sauté pour commencer, ensuite très vite 37 de le matin qui reste un film patrimonial, enfin maintenant qui rentre dans
matrimonial,
qui était gênant. Ce personnage.
Oh bah c'est toujours. Alors, à Cérimania, quand j'étais à Lille, Laurence m'a réinvité cette année, parce que j'avais appris l'année dernière pour les randonneuses, tout ça, elle m'a réinvité cette année, et pour faire une masterclass. Donc, il y avait plein de gens dans la salle, et plein de jeunes, et des classes, et tout, c'était génial. Et donc, on a montré 37.2. Il y a plein de jeunes gens qui ne connaissent pas 37.2. Donc, ils ont découvert ça, et c'était. De toute façon, ça choque toujours autant, hein, parce que c'est choquant, quelqu'un qui. Ouais. Bon, je vais pas faire la scène maintenant, puis ça suffit, Daniel qui attend. Non, c'est pas.
Je la connais par cœur.
Mais on est là pour. On est artiste ou on est. Tu comprends? On va pas. Il faut faire. Moi, j'avais demandé la permission à maman et papa de faire cette scène. Ils m'avaient dit oui. Et donc après, pendant un an, deux ans, trois ans, toute ta vie, t'as une espèce de réputation de nymphomane. On s'en fout. De toute façon, je veux dire, c'est pas grave.
Il y a pas eu un moment où c'était souvent.
Si, en boîte de nuit, quand j'allais. Ah, c'est la nympho, tu vois le truc sympa. Mais c'est pas grave.
C'est la nympho.
Bon, au moins, on vous laisse rentrer.
Le problème, c'est quand elle peut sortir.
En 96.
Yeah. Là, ça. J'ai eu la chance de le voir en concert. Ça, c'est le groupe.
Dr. Dre, et puis la même année.
Ah oui, ça, c'est un peu ton.
C'est vous?
Ah ben oui, c'est moi. Ben oui. Bonjour.
Oui, pas l'âme d'une dame.
J'ai pas l'âme d'une dame.
En fait, j'attendais que Clémentine revienne avec moi parce que
j'ai pas l'âme d'une dame. J'ai pas l'âme d'une dame.
Ça, c'est le premier album.
Oui, avec Emmanuel Valère. Et Manu, et on avait fait ça, oui, j'étais génial, on avait bien avec... oui, enfin, je, voilà.
Vous avez dit « j'étais génial » ouais.
Non, c'était génial, non. C'était...
Ah, j'ai entendu « j'étais génial
». Non, jamais je dis ça, je me trouve... non, non, à chier en plus, donc non, non, pas du tout, non, non.
Ah, allez voir la pièce, non, non, c'était... l'artiste est en confiance.
Mais non, mais non. Non, non, c'était, une période que j'aimais beaucoup, j'adore. Et je vais, je vais refaire des trucs en musique avec mon fils Abraham, Diallo.
Parfait.
On va faire des trucs comme ça, parce que...
Ouais, en 2002, vous écoutiez Q-Tip. Breathe and stop for real and give it what you got and just pump. On décèle assez rapidement ce que vous aimez, quand même, comme tempo et comme style de musique.
Non, puis ça me, ça, ça, pour, ça, ça me fout une patate. Ah. Ça. Moi, si j'écoute ça, j'ai une folle en fait. Déjà que bon. Ah non, mais c'est.
Et
c'est
je précise que Q-Tip, ouais. Pardon, ce sont les cotons-tiges hein, pour ceux qui cherchent à comprendre le nom du groupe.
Tu dis, mais pourquoi il a pris un.
Bah, débouche-toi tes oreilles.
Oui, ah oui,
et,
ah oui.
Ça,
débouche
oreilles. Ah, mal, j'avais pas pensé, dis donc.
Vous bien fait de venir.
Et 2002, c'est l'époque de Madame Sans Gêne. Vous dites qu'on vous propose cette pièce-là à un moment où ça va pas très bien.
Ah, je me souviens plus.
C'est vrai ?
Parce que moi, je ne me souviens plus de quand ça va pas bien. Parce
ah, c'est que bien,
c'est bien. Ouais, c'est plutôt pas mal.
Ah, c'est une bonne solution.
Je sais pas d'où ça vient, ça, mais je...
bah, en tout cas, super.
Vous dites que c'est un moment où vous travaillez un peu moins. Et
ah
donc,
oui,
j'imagine
oui,
que
oui,
ça
oui.
C'est plus.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Et là, le théâtre est arrivé, oui. Alors ça, c'était un rôle de fou, hein. C'était bah génial ouais. Aussi. Après, le problème, c'est quand il y a des rôles comme ça incroyables, on vous propose la même chose tout le temps.
Tout le temps.
Mais bon, voilà, je salue Alain Saxe, qui était le metteur en scène.
Rôle qui a été joué par Mistinguette, par Arletty, par Jacqueline Maillan.
Oui, donc Sophia Loren aussi.
On entre dans une grande tradition. Sophia Loren aussi, c'est la classe.
Ah ouais, ouais,
ouais, absolument.
Daniel Delorme. Enfin, il y a plein de. Ouais, ouais.
Et Clémentine Zavarier aussi.
Ouais. Et voilà. C'est
la classe.
Et je salue Michel Vuillermoz, au passage, qui est un acteur extraordinaire qui traverse une période un peu compliquée.
En 2012, vous écoutiez.
Ah oui, c'est ça, D'Angelo. Ça, c'est monstrueux.
Version live d'Angelo, Chicken Grease.
Merci d'avoir mis la live. La version live. J'étais en concert le voir au... Enfin, c'est incroyable.
Donc, dans votre vie, il y a de la musique, beaucoup, il y a de la scène, il y a du cinéma, et puis il y a de l'écriture avec les amoureuses.
Oui.
C'est la sortie de votre recueil de nouvelles où vous racontez des histoires,
plein d'histoires d'amour.
D'amour, des histoires plus ou moins douloureuses.
Plutôt dingue. C'était une réaction à une période où on ne va pas en parler parce que.
Ouais, ouais.
Après, ça va être récupéré dans
ouais,
le réseau.
C'est pour ça.
Elle reparle.
En tout cas, c'est le rapport à l'écriture. C'est surtout le rapport à l'écriture. Moi, je voulais
interroger. Oui, oui, non, mais bien sûr, elle est là. Merci.
C'est,
non, non,
c'est votre
pardon,
façon d'avoir
sûr.
Envie de. Vous dites que vous écrivez toujours, vous écrivez tout le temps.
C'est, quelque chose comme post-concert, t'écris, tu pis. Bon, allez, bon, pas de post-concert. D'ailleurs, pendant la chimio, tu dis, bon, bam, il faut envoyer du. Il faut fabriquer de la joie, quoi. Il faut fabriquer des plantes, des trucs, des machins. Je sais pas faire son petit potager. La métaphore. Bon.
Non, mais se donner en tout cas une occupation, un but, quelque chose.
Plus qu'une occupation, faire le rêve. C'est-à-dire faire le projet, enfin projeter des trucs. De toute façon, le projet dans la maladie ou même, enfin, quel que soit le handicap, comme on dit, c'est le projet, c'est hyper important.
Ça renvoie vers le futur.
C'est la base. Ah ben oui, ça. Et puis l'imaginaire aussi c'est écrire. C'est oui.
La pièce de théâtre se joue à la Pépinière, je le rappelle, enchaînement avec.
On l'a pas dit.
Mais si, on l'a pas dit. Je suis la maman du bourreau, joué par Clémentine Zavarier. Frédéric Bloquin nous
vous
a rejoint.
Vous sortez de prison.
Bonjour Frédéric, vous êtes journaliste.
Ah bah, vous croyez pas si bien dire.
Ah bah je sais.
Il faut pour rapprocher les criminels, il faut parfois frapper à la porte de la prison.
Les rencontrer.
Et comme j'ai pas de casier judiciaire rempli, comme il est vierge, si j'ose dire.
C'est bien débrouillé.
Eh bien, on m'accepte dans les prisons pour aller rencontrer, discuter avec les criminels au parloir.
Parfait. Vous êtes spécialisé.
Totalement.
Spécialisé dans le milieu de la justice, du banditisme, du renseignement. Vous avez donc fréquenté des criminels et des familles de criminels. Et c'est ça qui nous interroge aujourd'hui. Comment il y a peut-être pas de répétition ou de règles là-dedans, mais comment généralement les familles réagissent-elles en soutenant un criminel, un monstre, ou au contraire en le rejetant et en niant son existence?
Déjà, je crois qu'il faut évacuer, on va dire, les professionnels, parce qu'il y a deux sortes de criminels. Il y a les, entre guillemets, les amateurs, ceux qui ne vont tuer qu'une fois, qui vont tuer leur enfant qu'une fois, qui vont tuer leur père une fois, qui vont tuer leur épouse une fois dans leur vie. Donc c'est un moment unique dans leur vie de criminel, dans leur parcours de criminel, et ceux dont le parcours criminel commence très jeune et qui sont des véritables professionnels. Donc si vous êtes la mère d'un dealer qui torture ses camarades à la cave. Bon, vous pouvez avoir des angoisses et des palpitations, mais vous avez vu la chose arriver de très loin. Vous avez vu votre enfant basculer de très loin. Et finalement, moi, quand je me retrouve parfois invité dans les familles comme ça, j'évite un peu, mais j'y vais parfois, de grands voyous, par exemple. La mère est à table, tout le monde est à table, tout le monde assume parfaitement, et le grand voyou qui a tué je ne sais combien de personnes dans sa carrière l'assume parfaitement, tout le monde l'assume. D'ailleurs, il n'a pas tué des gens, il a entre guillemets tué, comme ils disent tous les voyous, je l'ai tué, mais c'était un enculé. Donc en fait, ils n'ont tué que des gens.
Ils ont le sentiment d'être...
C'est ça le discours qui valide. Donc ça, j'évacue ces professionnels.
Ils se prennent quoi pour des justiciers, ces gens-là, en disant c'est un salaud, donc je l'ai tué, donc c'est normal.
Vous savez, les grands voyous, ils ne vivent pas avec les lois de la République, ils ne vivent pas avec vos lois, nos lois, ils vivent avec leurs propres lois. Et effectivement, ils n'attendent pas que justice passe. D'ailleurs, ils estiment qu'ils ne seront jamais arrêtés quand ils tuent quelqu'un. C'est pas... S'ils sont arrêtés, ils crient leur grand Dieu que ce n'est pas possible.
Et une forme d'arrogance dans ces
voyous. Ils sont un peu au-dessus des autres. Donc ils ont le droit de tuer celui qui leur fait mal. Donc là, on est vraiment dans les professionnels. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que...
La famille. Alors, vous disiez justement, quand vous vous retrouvez avec une famille de voyous...
Et le voyou
qui assume en disant, de toute façon, c'était un salaud, je l'ai tué, on s'en fout. Sa vie n'avait aucune importance.
Absolument. Et là, ça passe et on passe au pamplemousse, à la pastèque, etc.
Mais non.
Et puis on passe au dessert. Bah oui, évidemment. Ça passe très bien parce qu'il y a une espèce d'accoutumance au crime. Après, chez ces professionnels, vous avez aussi, moi, je suis en contact aussi avec beaucoup de mamans qui vivent dans des quartiers sous emprise du trafic de stupéfiants et qui voient leur enfant complètement partir en vrille, tuer, avoir envie de tuer, etc. Là, moi, j'ai affaire beaucoup plus à des mamans en détresse, là, pour le coup, qui viennent vers moi, vers le journaliste, en se disant peut-être il va m'aider à déménager, il faut que je me sauve de ce quartier. Là, on a affaire à la détresse totale, profonde, de gens qui... qui sont au fond du trou. Quoi.
Ouais, ce que vous racontez me fait penser à ces mamans qui avaient fait barrière de leur corps pour protéger des pharmacies lorsque les enfants du quartier commençaient à tout brûler, à tout casser, en disant non, il y a un moment où nous, les maires, on n'accepte pas que ça se passe.
Là, c'est formidable, c'est une réaction citoyenne, on va dire, sociale, de femmes qui prennent des risques. Et d'ailleurs, on ne voit pas beaucoup d'hommes dans ces barrières en général.
C'était ma question.
On voit en général des femmes.
Pourquoi ?
C'est les mamans d'abord. D'abord, dans ces quartiers, il faut le dire quand même, vous avez énormément de familles, ce qu'on appelle monoparentales, sur le papier. C'est-à-dire qu'en gros, les pères, ils sont repartis depuis longtemps, ils sont venus en France, ils ont travaillé, ils ont fait des enfants, puis ils sont repartis au pays, ils ont épousé une jeune femme au bled, etc. Ils ont refait leur vie, ils se foutent radicalement et complètement de leur progéniture. Donc, jamais ils n'auront d'inquiétude.
On n'a pas forcément besoin d'être issu de l'immigration pour s'en aller quand on est un homme.
Non, mais là, je parle de ce qui se passe dans les quartiers, dans certains quartiers. Mais c'est pour aller au bled.
Dans certains quartiers, oui, mais enfin, il y a bien des hommes blancs qui quittent leur femme et qui les laissent en situation de monoparentalité.
De background, ils n'ont pas un village au fin fond de l'Algérie qui pourrait les accueillir.
On n'a pas besoin d'un village pour quitter sa femme et laisser seul avec un enfant.
Ces pères qui abandonnent, il faut quand même admettre qu'il y a des pères qui abandonnent leur progéniture.
Ah oui, bien sûr.
Alors, en quoi
ils vont au bled
et pourquoi ? Parce qu'ils ont la possibilité.
Non, en quoi ces hommes-là qui abandonnent ? Est-ce qu'il faut venir du bled pour abandonner ses enfants ?
Une deuxième épouse qui les attend.
Il peut retourner à Agen.
Plus jeune.
Il ne peut pas aller à Poitiers. Il ne peut pas abandonner sa femme à Marseille et aller à Poitiers.
Ça, c'est autre chose. Mais là, je parle vraiment de quelque chose d'assez spécifique sur lequel je travaille, c'est-à-dire en gros, dans certains quartiers de Marseille, de Roubaix ou d'ailleurs, vous avez des jeunes issus de l'immigration qui sont abandonnés par leur papa. Il faut l'admettre et le reconnaître.
Non, mais moi j'admets, je dis simplement que je suis contre la généralité de dire.
Ils sont pas à Poitiers.
C'est pas la question, monsieur.
Ailleurs.
C'est que tout d'un coup,
de la pièce de théâtre. Excusez-moi.
Oui,
là.
Mais la façon dont vous parlez, c'est important aussi. On a une responsabilité quand on prend la parole.
J'assume totalement ce que je dis.
C'est super.
Mais je veux revenir.
Moi, j'assume de vous dire que je trouve que votre formulation, elle est tendancieuse. Voilà.
Non.
Si vous voulez, des fois, il y a des réalités. Il y a des réalités quelquefois qui nous angoissent.
Non. Au point
qu'on les.
Les réalités. Vous ne pouvez pas édicter les choses. Vous n'êtes pas là pour dire que la réalité c'est ça et pas autrement.
Non. Il y a des réalités parfois qui nous angoissent, notamment la pédophilie. Et que je n'appelle pas pédophilie d'ailleurs, parce que j'ai remarqué tout à l'heure dans l'émission, il y avait ces deux mots qui étaient utilisés, pédophilie et pédocriminalité. Moi je préfère le mot de pédocriminalité parce que, en latin si vous voulez, en grec, pédophilie c'est l'ami des enfants. Donc c'est pour ça que j'aime pas ce mot, parce que c'est pas... les pédocriminels ne sont pas
les amis des enfants, mais des criminels.
Ce sont plutôt des bourreaux. Mais donc pour basculer... des professionnels du crime au sujet de la pièce de théâtre qui est absolument formidable, que j'ai eu la chance de voir. Et effectivement, là, c'est une autre dimension, c'est-à-dire que, pardonnez-moi, je vais généraliser aussi un petit peu, mais,
j'adore.
Parce qu'on est obligé, parfois, d'essayer de tirer des enseignements. Donc, dans certaines, la religion, catholique, notamment, a engendré dans nos pays un certain nombre de, on va dire, de prêtres pédocriminels. Qui n'en a pas connu? On en a tous connu dans notre vie. C'est pour ça que cette pièce nous concerne tous absolument. Et la maman, dans ces cas-là, la maman, il y a plusieurs... D'abord, le prêtre lui-même, j'ai l'impression de... c'est ce que j'ai ressenti en regardant la pièce, le prêtre lui-même, finalement, la seule mère qu'il se reconnaît, c'est probablement la mère de Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il est rentré en religion, il est passé à autre chose. Mais je voudrais dire que dans les familles françaises, ça fait 40 ans que je fais ce métier de journaliste et que j'enquête sur ces phénomènes criminels, et que la pédophilie, la pédocriminalité, j'ai écrit dessus dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, à chaque fois on arrivait au même constat, c'est qu'on était dans une omerta gigantesque au sein de notre société, et que dans la plupart des familles...
Comment une maman réagit?
Ben justement, par l'omerta, et si vous voulez, quand vous étudiez de près un certain nombre de familles...
C'est le déni que vous avez plus souvent...
J'ai eu affaire à des victimes, que j'ai pu interroger, des victimes de pédocriminels, et systématiquement, leur papa avait été victime, leur grand-père avait été victime, leur arrière-grand-père, pas systématiquement, mais très 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 souvent, en fait, le pédocriminel a lui-même été victime au départ, et reproduit un espèce de phénomène. Donc dans la famille, il y a un espèce de non-dit gigantesque qui s'installe.
Donc rien n'est dit. Donc la famille est responsable.
Mais je dirais même plus que ça, la famille couvre, famille protège.
À l'inverse, est-ce que vous avez déjà vu des familles où des mamans portaient plainte ou témoignaient contre leurs enfants?
Pas dans ces cas-là, mais il y a effectivement dans les cas de pédocriminalité, il peut y avoir des moments où effectivement ça sort, parce qu'il y a une génération qui arrive, il y a quelqu'un qui dit moi je vais dénoncer, et donc il y a des enquêtes qui sont ouvertes, et ça déstabilise tout le monde, et vous avez souvent au sein de la famille un rejet de celui qui va accuser et qui va jeter l'opprobre sur la famille. Donc c'est absolument c'est pour ça que je dis, là, les mamans de ces bourreaux-là ont malheureusement, et puis la religion les y incite, je veux dire, au silence, à couvrir l'enfant. Alors, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est lié à la pratique de la religion? Je sais pas. Il y a aussi l'amour qui aveugle. Je veux dire, moi j'ai lu des lettres de mamans qui essayaient de parler à leur enfant qui avait basculé justement peut-être dans une affaire de pédocriminalité, et elles essayaient de dire mais à leur fils mais je vous aime, je t'aime, etc. Mais cet amour, elles se rendaient compte, et c'est là où c'est extrêmement blessant pour une mère, cet amour ne suffisait pas
à retenir
ni quoi que ce soit, et donc c'est extrêmement perturbant pour la maman, parce qu'elle se retrouve, elle trouve la limite de l'amour qu'elle a pour son fils,
c'est ça que j'ai retrouvé dans
la pièce également, tout ce qui concerne les réactions de la presse.
Merci,
parce que vous avez juste
Frédéric.
La famille et elle-même, vous avez aussi la presse, les voisins, vous avez tout, et ça je trouve ça très bien traité dans la pièce.
15 minutes pour sauver ma vie, c'est le dernier ouvrage que vous venez de signer aux éditions Plomb. Merci Frédéric Poquin.
Merci, je pourrais vous parler encore un petit peu.
Oui, mais nous non.
Et notamment des terroristes, on n'a pas parlé de terrorisme.
Alexandre Kominek ne s'est pas réveillé, c'est ça aussi le problème que je voulais évoquer avec vous, Leïla, mais vous avez un invité.
Absolument,
quand même.
Absolument, Nagui, et c'est un invité qu'on avait déjà reçu, il nous vient de Colombie, il profite de son séjour parisien pour venir nous dire bonjour. Pacho, comment ça va?
Todo bien, Morenita, muchas gracias. Todo bien, buenos días a todos, buenos días.
Bonjour.
Hola. Je suis très content de vous voir, de faire un petit séjour à Paris. J'aime beaucoup Paris. Moi, me gusta les croissants.
Les croissants.
Les pains de chocolat, c'est exactement. Et j'adore Hidalgo. Si, quel bordel dans la ville. Paris est tellement bouché que j'ai l'impression de rouler dans la narine d'un client à moi. Et je vous le dis, vivement les Jeux Olympiques.
Les
Jeux Olympiques.
Les Jeux Olympiques.
Mais c'est ce qu'il dit, les Jeux Olympiques.
Vous aimez le sport?
Et comment mes biscottes? J'accompagne beaucoup de sportifs dans leur préparation et même durant leurs compétitions. Je suis très souvent sur le Tour de France. Je les vois pédaler d'ailleurs, je me dis que beaucoup de mes produits sont en libre circulation. Non, mais c'est vrai que le vélo est... ça va ensemble. C'est pour ça qu'une piste cyclable est délimitée par plein de petits traits blancs.
Vous êtes en train de nous dire en fait que vous aidez les sportifs à se doper?
Doper, por favor, Morinita, c'est pas doper, c'est plus comme de la vitamine. J'ai un produit bio, sans additif, je milite pour le FMSO. Je fournis même des pailles éco-responsables. pourquoi il faut préserver les tortues. Si, grâce à elles, moi, j'ai fait du trafic écologique.
C'est-à-dire,
avant, j'envoyais mon produit par avion ou par bateau. Mais depuis 2 ans, maintenant, j'en bois avec les tortues. Je fous un paquet sur la carapace, je profite des courants chauds pour amener la drogue directement aux États-Unis.
Mais c'est risqué quand même.
Bah, c'est risqué. Je sais que les Américains sont cons, mais ils ne vont pas mettre une tortue en prison. Ce qui est risqué, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les courants peuvent dévier. Les tortues arrivent ailleurs. Hein, tu vois, si ça continue comme ça, elles ne seront plus à Miami, mais à Saint-Malo.
Ah oui.
Voilà. Et déjà que nos amis bretons sont alcooliques, vous allez voir qu'avec ce que j'en bois, les habitants de la ville ne dormiront plus beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit, faites du tri, recyclez. Hein. Si vous ne le faites pas pour la planète, faites-le pour les Bretons. En plus, j'ai rendez-vous maintenant avec un Breton avant l'enregistrement de son émission. Tanguy P, ça vous dit quelque chose?
Merci. Alexandre Cominec.
En tournée européen, là. C'est fini. Il est en tournée en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Thaïlande et en Colombie.
C'est pour livrer les vitamines.
Les vitamines.
Tanguy Passereau, de quoi vas-tu parler?
Je vais vous parler de l'idylle entre Nicolas Mathieu, l'écrivain, et Charlotte Casiraghi. Des gens sont contre, moi je suis pour, parce que je défends les amoureux, quels qu'ils soient.
Je suis la maman du bourreau, Clémentine Sélarié, avec cette pièce au théâtre de la Pépinière, notre invitée jusqu'à 12h30. C'est la bande originale avec Leïla Kadoboudadi, avec Mélodie Fontaine, avec Julie Conti, Alexandre Cominec, Tanguy Passereau, Daniel Morin et notre invité Clémentine Zélaré. Bonjour Julie. Je dis Mélodie, je fais Julie, voilà, comme ça c'est fait.
Ok, d'accord.
Pas de jaloux. Wow. Je suis la maman du bourreau. C'était le titre du roman?
Oui, c'est le titre du roman que vous pouvez lire, que je vous conseille chaudement. Et ce que j'ai aimé, en fait, quand cette libraire à Crozon me l'a tendu, parce que je lui dis, t'aurais pas un roman avec une femme puissante, un rôle puissant? Elle me dit, ah, ne bouge pas. Non, mais c'est dingue. Je cherchais, j'avais, je m'étais dit, est-ce que je refais Maupassant, est-ce que je fais Le Vidange Zola, des trucs comme ça. Et puis,
On va voir des agents de texte de théâtre ou de.
Alors, non,
de
moi, je sais pas organiser. C'est comme les robes pour aller au bal, aux cérémonies. Je mets un truc, tu sais que j'ai acheté Boulevard Magenta.
Okay.
Non mais bon, on peut pas s'organiser tout le temps pour... c'est fatigant à un moment donné. Bon. Et puis on remet une robe qu'on atteint, ça c'est très, je vous conseille. Ah oui, ça c'est les filles. Non mais tu as une robe, tu vois, qui t'a coûté un peu un bras machin. Elle est genre,
elle a été prise en photo et vue sur un tapis rouge.
Tu peux pas trop la remettre, tu comprends, sinon on va dire ah ben elle a pas de machin truc, ouais, elle a pas de robe. Tu prends la robe, tu la teins en mauve ou en noir, tu vois, et ça fait, personne ne reconnaît. Moi j'ai fait ça avec des robes de marque. Des moments où t'as pas forcément, tu vois ce que je veux dire, l'argent pour t'acheter tous ces trucs.
Donc sortons du dressing et revenons à la librairie. Le livre a le prix Claude Chabrol 2022, c'est-à-dire vous l'avez lu quand ce livre, avant qu'il soit reconnu?
Après je l'ai lu il y a un an et demi, en mars dernier, en fait il y a un an.
Très vite, tout
mais
ça.
Oui, ça c'est, on cherchait toujours avec Jérôme, mon producteur, on ne trouvait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai été voir cette libraire avec ma copine, Catherine, du Parchemin, voilà, la librairie. Et puis, je lui dis,
c'est en Bretagne, Crozon, si ça vous intéresse.
Comment?
C'est en Bretagne, Crozon.
Oui, c'est en Bretagne, oui. Et oui, c'est un endroit que j'adore. Bref, j'en parle pas trop parce qu'il y a trop de touristes. Non, mais c'est vrai, il faut.
Pourquoi
c'est très moche,
viennent,
plus tout le temps. Non, non,
N'y allez pas.
Non.
Et les gens sont.
Vraiment, un endroit, il faut pas y aller. Voilà. C'est génial, mais voilà.
Et donc, c'est cette descente dans les abîmes de l'âme humaine qui vous a intéressé.
Oui, et c'est la dichotomie, pardon, du titre, c'est-à-dire la maman, c'est l'amour, le bourreau, c'est pas l'amour. Donc, et c'est pas un bourreau, il y a des gens qui croient que c'est la maman d'un bourreau, tu sais, qui fait des guillotines. Non, c'est une maman, donc d'un monstre, d'un criminel, d'un horrible pédocriminel, enfin bon, bref.
D'un malade.
Et donc c'est, non, ce qui m'a attiré, c'est le roman qui est absolument dingue de cette femme qui est dans un endroit clos et qui parle et qui a le courage, qui vit toujours d'abord après qu'elle ait appris ce drame, et on ne sait pas où elle est dans la pièce, elle est dans un endroit clos, donc on pense que c'est un cloître. Bon, on va voir à la fin que c'est pas un cloître. Et puis, on pense aussi que son fils s'est suicidé quand même. Au départ, elle dit, voilà, c'est ce que la police croit.
Absolument.
Après, on va comprendre.
Et puis, il y a ce rapport au sacré. Il y a ce rapport aux forces.
Voilà, aux forces et à tout l'espoir qu'on peut mettre aussi dans le sacré, dans l'humanité aussi, dans une forme de dépassement, etc. Et c'est vrai que...
Vous croyez-vous à une force supérieure qui
nous domine ? Je crois, j'ai la foi. Okay. J'ai une foi, mais je ne suis pas religieuse, parce qu'en plus, en ce moment, je trouve ça intéressant de j'aime entendre toutes sortes de religions. Je suis attachée au fait d'être complètement ouverte à toutes sortes de religions, surtout en ce moment, parce que et la foi, ça, j'aime rencontrer des gens qui, si vous voulez, c'est une lumière
qui croient en quelque chose.
Que ce soit d'ailleurs croire en pas forcément des forces divines, mais quelque chose qui nous dépasse. Je sais pas, je trouve que c'est important, même quand on crée quelque chose qui, comme ce projet dont on parlait tout à l'heure, quand on est dans des situations de d'enfermement, que ce soit une maladie ou de handicap ou quoi, ou enfermement en tout court, d'avoir toujours une lueur d'espoir. En fait, c'est l'espoir qui m'attire. Et moi, c'est vrai que je voulais être bonne sœur, quand même, je le redis tout le temps, mais c'est vrai que je voulais vraiment, quand j'étais petite... Non, mais écoute, non, parce que sinon, mais dans mon métier, quand je suis sur scène, je me dis que on essaye de... C'est ce que j'essaye de faire, en fait, dans cette pièce, c'est de... Pour moi, ça parle d'amour, cette pièce. Tu vois, c'est ça qui est. Ça parle de. En tout cas, quelqu'un qui croit en ça, mais qui se trompe un peu, et elle l'avoue qu'elle se trompe, et qu'elle projette quelque chose sur son fils, mais qu'elle projette, c'est-à-dire qu'elle se prend pour son fils.
J'insiste aussi, elle projette, elle se prend pour lui, ou en tout cas, elle s'identifie à la situation, mais aussi, ça pose la question à n'importe quel parent ou membre de la famille, comment je réagirais si autour de... Oui, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Si au sein d'une famille, un drame se produit, et un drame, on se met souvent à la place de ceux qui subissent une agression, une attaque ou une maladie, mais si d'un coup on est dans la famille de celui qui agresse, de celui qui tue, de celui qui porte atteinte, là il peut y avoir des réactions ou une absence d'explication qui peut être très troublante.
Il y a un moment où elle dit, peut-être que j'ai toujours su, dans la pièce elle le dit, elle parle de son peut-être son propre déni. Et elle dit « Mais je l'aimais tant, trop, mon fils. Un tel amour efface de lui-même tout ce qui pourrait l'abîmer. » C'est-à-dire qu'elle est consciente. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est « Un tel amour arrache de lui-même toutes les mauvaises herbes qui pourraient lui faire du mal. » C'est-à-dire que si on aime de façon... Mais... Enfin, son enfant
irrationnel,
irrationnel. Voilà, alors c'est compliqué, mais elle reconnaît que peut-être elle a eu ce déni, et puis elle est pleine d'effroi. Mais bon, après,
formidable mise en scène, formidable mise en lumière et un décor évolutif. Je n'en dis pas plus, qui fait que l'étau se resserre sur cette maman seule en scène, incarnée par Clémentine Célarier au théâtre de la Pépinière. Voici Tanguy Pastureau.
C'est formidable l'amour, on se sent transporté, ça nous sort du quotidien, on est là à sourire comme un idiot, tandis que les non-amoureux pleurent en regardant tomber la pluie. Et même s'il pleut quand on est amoureux, on ne sent pas les gouttes. Il n'y a que si vous êtes amoureux que vous survivez dans le Pas-de-Calais ou en Bretagne. Et ce qui est magique dans l'amour, c'est que c'est le loto. On peut s'amouracher du premier venu, ce livreur avec son petit blouson chronopost. Est-ce qu'il n'a pas écrit 4 fois qu'on était absent alors qu'on était là juste pour se faire désirer?
Tellement.
Cette fille chez Subway qui, en enfonçant des bouts de dinde dans de la mie, vous regarde d'un air salace. N'est-ce pas un message? Elle tripote bien trop la viande pour qu'il n'y ait pas un sens caché. L'amour, ça vous emporte. Parfois, les unions sont considérées comme hors normes par notre société coinceaux. Brigitte et Emmanuel, Daniel Morin et moi, Gérard Larcher et l'ensemble de l'équipe de Premium Traiteur dans le 17e, Fabrice Luchini et lui-même. Ouais. Autre exemple, on a appris que Nicolas Mathieu vivait une idylle avec Charlotte Casiraghi. Je recite Nicolas Mathieu et cet écrivain délicieux qu'on a reçu ici, prix Goncourt en 2018. Bon, depuis, rien, même pas le Nobel ou une entrée au Panthéon. Le problème du Goncourt, c'est qu'ensuite, tout le reste de ta vie, c'est moins bien. C'est la loose. Mais il a rencontré Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco. Ces gens sont les seuls qui, dans leur nom, ont le lieu où ils vivent. C'est comme si Julie Conti s'appelait Juju de la banlieue de Genève. Voilà. Alors, j'ai mis ça, cette blague, juste pour entendre le rire de Julie Conti. En fait, c'est raté. Mais voilà. Parce que c'est mon troisième centre d'intérêt, après le beurre de micelle et l'observation au niveau des urinoirs, des visages des mecs qui font pipi, parce que j'essaie de deviner à leur air lesquels ont la chaude pisse. Donc Nicolas et Charlotte sont ensemble, ne s'en cachent pas, se papouillent. Dans leur bide, il y a plus de papillons que dans l'ensemble des champs sous pesticides. C'est beau. Ils sont différents. Lui, le Vosgien, fils d'une famille modeste. Elle, la princesse, qui toute sa vie s'est faite yèche sur son rocher plaqué or. Mais c'est ça l'amour. On a oublié à cause des sites de rencontres, on rentre 17 critères que doit avoir le futur être aimé. Que plus que quand on cherche, pardon, un appart sur ce loger. Moi, j'ai des amis qui ont fait plus l'amour à leur buanderie qu'à une personne. C'est le hasard de la rencontre et le fait que tout n'est qu'apparence. Une aristo et un prolo peuvent, au fond, avoir la même chose au fond des tripes, la même âme. J'aime les couples surprenants. Moi, une idylle Michel Onfray et Fida Turner, je valide. Oui, et même Aya Nakamura, Martine Aubry ou Jean-Luc Ley avec une vieille. L'amour, c'est la terre de tous les possibles. Quand je pense qu'on se gave de séries inclusives sur Netflix, alors qu'il suffit de former un trouple avec une lesbienne atteinte de bégaiement et un handicapé thaïlandais pour faire bouger les choses. Ouais. Mais quel gâchis. Alors seulement les fans de Nicolas Mathieu depuis l'annonce de la relation sont pas contents du tout.
Ah bon?
Non, ils font la tête d'Olivier Véran si à la clinique des Champs-Élysées pour sa formation en chirurgie esthétique, il lui avait demandé de s'entraîner sur son propre pénis et que le scalpel avait ripé. Ce sont des gens de gauche pourtant, censés être ouverts et gentils et tendres, contrairement aux gens de droite qui mangent des enfants. Source, mes collègues de France Inter. Exemple de réaction sur les réseaux. Elle ne cadre pas trop avec le style et les discours de Nicolas Mathieu. Ce genre de truc, on en lit des centaines. Pas un pour dire que peut-être lui ne colle pas à son style à elle quand il se trimballe en vieux pull à Alain Souchon alors qu'elle est ambassadrice Chanel. Autre réaction. C'est fou, j'ai lu les messages de Nicolas sur Instagram, mais j'étais à des années-lumière de penser qu'il les écrivait pour Charlotte Casiraghi. Pour une tourneuse fraiseuse payée un demi-smic, ça passait. Mais cet homme, juste parce qu'il vient de là où il vient, n'a pas le droit de s'enticher d'une noble. Les lecteurs de Nicolas Mathieu, en fait, se sentent floués parce qu'il a sorti un recueil de messages d'amour, mais il voulait que ce soit pour la nouvelle Cosette, quelqu'un qui galère, hein, qu'en fait, ils vivent pour toujours la vie de ceux qu'il décrit dans ses romans. Dans un message, quelqu'un écrit « la vie des petites gens ». Et je déteste ce terme. Les petites gens s'arrêtent de bosser, en 12 heures, le pays est à l'arrêt. En ça, ils sont 20 fois plus grands que les princes en toque qui traînent leur vie sinistre sur les bords de la Méditerranée. Oh. Donc, mon conseil à Nicolas Mathieu, parce que c'est un littéraire, il doit pas écouter RMC, il nous écoute, il est avec nous. Tu n'appartiens pas à tes lecteurs. Fais ce que tu veux de ta vie et deviens un écrivain de droite. Houellebecq est fini. Son dernier livre, c'était sur sa zazette. Il y a un créneau. Tu mérites mieux que tous ces abrutis bornés qui comprennent pas que l'amour balaye tout. D'autant que, attendez, spoiler de vie réelle, c'est pas parce que vous fréquentez tel ou tel que vous verriez forcément. Il n'y a pas forcément de trahison. Exemple, moi. Toutes les orgies que fait Nagui dans son manoir. Oui. J'y suis. Il y a tous ses potes. Pascal Pro, Anne Hidalgo, Jeanne Masse. Il y a des chevaux qu'on découpe en hurlant. Daniel Morin joue de la flûte avec ses fesses. À 3h du matin, Didier Deschamps sabre le 38 tonnes de champagne à l'aide d'un tractopelle. On s'amuse.
Ah, oui, on rit.
Mais au petit matin, alors que l'équipe de nettoyage arrive chez Nagui et commence à passer l'aspi entre les orteils écartés de Leïla Kadour en pleine crise d'épilepsie à cause d'un abus de stupéfiant. Je sais qui je suis, moi, au fond. Un petit braisou de la campagne qui regarde tout ça de loin, puisque mes attaches sont là-bas, entre deux sentiers qui n'apparaissent même pas sur Google Maps, derrière un calvaire abandonné dans la terre. Parce qu'on va, on vient, on vogue, mais souvent on va mourir là où on est né. Je doute que Nicolas Mathieu, le jour où il se sentira défaillir, aille clamser devant la boutique Hermès, 11-15 avenue de Monte-Carlo, à Monaco. N'aie pas peur, lecteur de Mathieu, ton Nico est toujours là. Simplement, l'amour l'a traversé. Et souvent, on ne choisit pas. Alors, suis-le. Toi aussi, quitte le monde des non-amoureux qui n'ont rien d'autre à foutre que de commenter une love story pleine et entière. Et tombe amoureux, ça fait du bien. Et ça ouvre les horizons. Tellement.
Merci, Tanguy Passion.
Tanguy sur scène en Suisse, au Théâtre Les Salons, ce sera le 2 mai. Tout à l'heure, je me suis trompé. C'est pas Julie qui est à Dessine, c'est Mélodie Fontaine.
Oh là là, parce qu'on est blondes toutes les deux. Ouais.
Avec Chignon. Avec Chignon. Avec Chignon.
Vous m'avez embrouillé.
Vous faites tout pour nous troubler.
Ah oui.
D'autres événements culturels, oui. Leïla.
Si je vous dis Soprano, Grisou, Pesquet.
Punition.
Mickey Parade.
Punition.
Le classement de Mickey.
Journal
absolument,
de Mickey.
Absolument, bravo. Ce sont les trois personnalités préférées des 7-14 ans, selon le journal de Mickey. Angèle est entrée dans le top 10. C'est la seule femme. Elle est 8e de ce classement. Les femmes sont sous-représentées dans le classement de Mickey.
Le 7-14, c'est sexiste.
C'est dire que les mômes ne sont vraiment pas des gens bien. Non, mais c'est ça.
Est-ce qu'il y a un curé dans le classement ou pas?
Non, il n'y a pas encore un curé. Mais c'est vrai que les mômes sont assez déceptifs.
Oui.
On y passe quand même beaucoup de temps, on investit beaucoup de soi.
Pour qu'ils aiment Soprano.
Soprano, j'ai rien contre, mais c'est que ça pourrait être un peu plus équilibré en termes de femmes.
Je comprends, elles ont fait faire un effort. Hein.
Je vais pas vous demander votre classement, Clémentine Célarié, à vous. Je vais vous demander une voix qui porte en ce moment, la voix d'une personnalité, qu'elle soit du monde artistique, du monde politique, du monde associatif, qui est une voix qui, dans des moments un peu troubles, peut vous éclairer ou que vous avez envie d'entendre, parfois.
Ouais. Faut que je réfléchisse, là. Ouais. Alors là
Des interventions télé qui peuvent vous faire du bien, des gens qui tout d'un coup amènent peut-être un peu de nuance ou un peu d'éclairage.
Le dernier, c'est Théo Curin.
Ouais.
Théo Curin, je l'avais rencontré sur Vestiaire, il a 25, je ne sais plus quel âge il a, peu importe, parce que il a une âme de quelqu'un d'ancien. Et Théo, il a un truc, une lumière, vous voyez qui c'est ou pas?
Oui, absolument.
Champion paralympique de natation, qui est comédien aussi, qui fait plein de trucs. Et là, on a vécu en fait 48 heures avec un jeune homme que j'ai rencontré qui s'appelle Ryan, qui a eu un problème de tumeur à la moelle épinière. Et moi, j'ai dû remplacer sa maman. Ça, c'est de la lumière. Si vous voulez ça, c'est tout d'un coup vous êtes projeté dans un monde où vous devenez, c'est l'idée de Théo, je devais être aidante de ce jeune homme pendant 48 heures et Théo lui s'occupait de sa maman qui est son aidante, parce qu'on fait jamais d'émissions sur les aidants, souvent des émissions sur les aidés, enfin c'est normal
alors qu'il y en a tellement aussi,
mais voilà, il y a énormément et donc ça,
et qui ne sont pas payés, qui sacrifient leur vie pour
et de découvrir des gens comme ça, des personnes comme ça, ça m'a fait énormément de bien. Parce que ça fait du bien d'être éclairé en fait par des gens qui vivent des choses tellement dures qu'ils ont une lumière phosphorescente.
Et
il a 23 ans.
Il est tout jeune et on le retrouve aussi sur France Télé dans Aux Armes Citoyens avec Carole Gessler.
Il fait plein de choses.
Sportif, nageur, conférencier.
Oui, voilà, c'est ça.
Et acteur et mannequin, je crois aussi.
Son expérience. Oui, absolument.
Et puis il fait des interviews en bagnole aussi.
Oui,
il fait des formats hyper sympas.
Il est vraiment incroyable. Donc voilà.
Ça, c'est la belle rencontre du moment et c'est la lumière, c'est la voix qui porte en ce moment. Oui. Autre question, on cherche une actrice française à qui rien ne résiste.
Clémentine Zéry.
Quelques indices. Si je vous dis, je verrai toujours vos visages.
Adèle Exarchopoulos.
Bravo Daniel. Adèle Exarchopoulos, doublement césarisée, notamment là pour Je verrai toujours vos visages. C'était Adèle Atif Kechiche aussi, avec son film précédent qui avait fait beaucoup parler. Adèle Exarchopoulos qui va reprendre du service en termes de voix pour Vice Versa 2.
Ah génial.
Mais, parce qu'elle avait fait la voix d'Élémentaire, ce qui avait déclenché aussi une petite polémique, sauf que là, ce qui est intéressant pour Vice Versa 2, c'est qu'elle n'a pas été recrutée pour faire la voix française, elle a été recrutée pour faire la voix originale.
C'est chic. Ouais.
Donc ça, c'est méga chic, ça veut dire quelque chose. Elle va aussi tourner...
C'est worldwide.
Voilà, c'est ça, la série Too Much pour Netflix par la réalisatrice et la créatrice de la série Girls ou encore Camping. Donc on a quand même pas mal de pas Camping, le Camping que vous connaissez.
Pas le chef-d'œuvre.
On n'attend pas Patrick. Non, c'est pas exactement... J'ai choisi de parler d'Adèle Exarchopoulos parce que je trouve qu'elle a quelque chose qui me fait penser à vous, Clémentine Célarié, dans ce franc-parler qu'elle a dans son...
J'aime beaucoup, elle est chouette, elle est une actrice incroyable.
Est-ce qu'il y a des actrices comme ça qui vous donnent envie, ne serait-ce que par leur nom, d'aller voir leur film?
Oui.
Ouais.
Ah oui.
Qui fait cet effet-là sur vous?
J'ai regardé une série récemment, New Look, j'ai regardé, bon ça j'ai pas été au Cinoche récemment, pardon, parce que je suis au théâtre en même temps. Mais il y a Juliette Binoche qui est dans New Look, et franchement je voulais lui laisser un SMS en disant t'es incroyable, donc je lui dis à la radio elle est incroyable, elle joue Chanel, Coco Chanel. Il y a Benjamin Ben Mendelsohn qui est l'acteur qui joue Dior, qui est un acteur que j'adore, qui est extraordinaire. Alors, Adèle, c'est vraiment une des filles qui, je trouve. Mais il y en a beaucoup. J'ai pas là parce que récemment, je regarde beaucoup de séries anglaises aussi ou norvégiennes ou danoises.
Quelle est votre définition d'une bonne actrice ou d'un bon acteur?
C'est-à-dire que je l'oublie et que je crois totalement, absolument en ce qu'il fait, en ce qu'il incarne, et je suis porté par l'histoire, et il y a des trucs comme ça. The Guilty, vous avez vu ce truc, ça s'appelle, regardez ça, mais regardez la version danoise, il y a une version américaine d'un acteur génial, Gyllenhaal, Jack Gyllenhaal, mais il y a une version danoise où c'est absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relativité. Moi, ce métier est devenu, de toute façon, pour moi, toute ma vie, parce que c'est l'absolu que je cherche, évidemment. Et quand je vois un film ou quand je suis au théâtre, j'ai envie d'être happé, complètement transporté par... quand ça arrive, ça, c'est par exemple des actrices comme... Big Little Lies, tout ça là, avec
Kidman et
Chris Boswoon, enfin l'autre, enfin ça c'est des gonzesses, tu vois, quand je les vois, je me dis bon.
Bah c'est exactement ce que l'on ressent quand on vous voit. Et,
oh, merci,
c'est vrai. Et sur scène, avec à peine un foulard, une veste, un manteau et les jeux de lumière, on oublie justement les boucles d'oreilles, exactement.
De maman. La bague de maman.
C'est vrai.
Oui, qui est en Bretagne, que j'embrasse.
En tout cas, on oublie rapidement Clémentine Sélarié pour voir cette maman, maman d'un bourreau, maman d'un monstre, maman d'un criminel. Mettez le qualificatif que vous voulez derrière, mais c'est surtout cet amour illimité qu'a une maman pour son enfant ou pour ses enfants qui est remise en cause. Et c'est tout ce travail, cette introspection l'âme humaine qui est passionnante. Vous serez au casting de À l'épreuve qui passera avec Bernard Campan prochainement sur France 2. Bernard que nous allons recevoir lundi prochain. Oui. Exactement. On vous retrouvera également dans Le Remplaçant.
Oui, avec Joey Starr.
Sur TF1.
J'adore aussi.
Et Pierre et Jeanne est un long métrage.
Oui, bah ça il sortira, je sais pas quand je serai mort, je pense.
Que vous avez réalisé.
Oh bah, je ne sais pas que vous qui faites des blagues.
Non, vous avez réalisé. Vous l'avez réalisé.
Oui, je l'ai réalisé, mais bon, c'est un film très d'auteur, très. C'est pas une grosse comédie, enfin tu vois. Donc ça mettra du temps, mais c'est pas grave, c'est pas voilà.
Toujours
le remplaçant de Joey Starr, pardon. J'ai juste dire que je l'aime et que c'est un partenaire génial et que c'est un acteur que j'adore et vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup beaucoup, qui est tellement vrai. Le remplaçant, c'était voilà. Et comme la découverte de Bernard aussi dans ce film de
Bernard Campan,
pardon. Ouais.
Oui, les filles. Je suis la maman du bourreau, partirait en tournée.
Ah oui, ça part en tournée, oui, bien sûr, à partir d'octobre, une grosse tournée, enfin, on va faire, je sais pas, 100 dates et quelques, enfin, un truc, et ça va être génial, parce qu'après, moi, je fais un petit after, après, je parle aux gens, je raconte des conneries pour leur détendre le plexus, tu vois, faire un petit sas de décompression, ce que je fais aussi à la pépinière, hein, mais un peu, j'ai moins de temps, parce qu'il y a des spectacles après et tout, et du coup, et après, on discute, porte de scène, tu vois, c'est important de parler, et surtout de ça, quoi, et ça va être chouette, donc, oui, j'ai hâte de la tournée, oui.
Et la musique, donc, vous avez évoqué tout à l'heure projet avec votre fils.
Oui, on a envie de recommencer, il faut trouver le temps, parce que là, en ce moment, j'écris un roman, un récit, enfin bon, il y a beaucoup de trucs, donc la musique, on va en faire, je vais aller en Bretagne.
Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur il faut avoir des projets, des envies de création et
oui, alors ça, c'est parce que je suis plus malade, donc oui, ce que je veux dire, c'est que oui.
Mais
là, c'est ma drogue, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de créer, mais c'est mon métier aussi, c'est la maturité étant un truc merveilleux.
Vous pourriez attendre...
D'ailleurs, tu vois, la maturité, c'est un truc dont on parle jamais.
Vous pourriez attendre viennent vous chercher aussi.
Non, non. Parce que sinon, on ne proposerait jamais ce genre de rôle.
Et Avignon, cet été, combien de...
Cette année, la prochaine, j'y vais pas parce que je tourne.
C'est bien la seule fois qu'on vous verra pas.
Ben oui, non, mais parce que je tourne une série très chouette d'ailleurs. Bon bref, et donc je ne pourrais pas y aller cette année. Mais c'est super aussi de faire des projets de séries chouettes.
Je suis la maman du bourreau, Clémentine Sélarié au théâtre de la Pépinière. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien entendu, Nagui. Désolé pour nos auditeurs. Un peu hardcore qui ont été, on peut le dire, déçus par le côté feel good ou CLS, comédie légère à succès de la pièce Je suis la mère du bourreau, quand Clémentine Sélarié a déclaré...
On ne veut pas tuer des gens.
On veut pas tuer des gens, bah dis donc. Merde alors, c'est décevant, faut aller jusqu'au bout, hein, Ananas. Après, moi, je suis désolé pour le grand Nicolas Canteloup, l'excellent Laurent Gérard, le troublant Marc-Antoine Lebray, et bref, tous les imitateurs, dont le secret a été révélé tout à l'heure par Mélodie Fontaine. Ils ne savent pas.
Fontaine,
j'ai dit quoi ?
Fontaine.
Ah, pardon. Ils ne savent pas qui ils imitent. Voilà, la vérité a éclaté. Oui, maintenant, tout c'est clair, on comprend mieux. Désolé, enfin, maintenant, pour Leïla. Leïla,
Elle avait commencé une belle journée.
Elle avait des vues sur Frédéric, notre spécialiste, quand il est passé dans le collard. Elle a fait, dis donc, je partirais bien au bled pour un week-end séquestration et pour choisir. Donc, finalement, on l'a tous constaté. Le courant n'est pas vraiment passé.
Ça n'aura pas lieu, non.
Ou alors il a trop passé, peut-être. Mais je trouve ça dommage. Bon alors, c'est moins exotique, Lila. Mais si tu veux, je t'emmène en week-end à Poitiers. Et comme l'a dit Tanguy tout à l'heure, tu le sais maintenant, aux soirées de Nagui, je fais de la flûte et je crois, attends, je vais un petit air de flûte pendant le week-end.
C'est quoi, Daniel? J'ai envie de te dire oui.
Combien d'années il aura fallu attendre?
Bah oui.
Je suis pas une fille facile. Hein.
Non, ça se confirme. Je suis la maman du bourreau.
Ah, désolé, Nagui.
Je parlais pas de moi, j'étais témoin. Je suis la maman du bourreau de David Lelay Hello. Pardon, j'en ai un chat qui vient m'égorger. Porté par Clémentine.
Dans la gorge, Nagui. On travaille sur les expressions françaises depuis un moment.
Je sais pas. Moi, je vais retourner au bled, je vois rien, ça va.
Avec Fredo.
Au théâtre de la Pépinière. Merci, Clémentine.
Merci à vous, c'était très chouette.
Et bravo. Demain, c'est Marc Duguin qui va venir nous expliquer que la fin du monde est pour bientôt.
On va se marrer.
Faisons l'amour.
Exactement. Passez une très belle journée sur Inter. Les carnets de campagne, c'est maintenant. Dorothée Barba.
Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans les carnets, oui, avant de mourir, on va parler d'une association que j'aime beaucoup, qui organise des ateliers pour les enfants chez des artisans, histoire de découvrir la menuiserie en vrai, la couture en vrai ou la pâtisserie en vrai. Ça s'appelle L'Outil en main et ça fait un boulot précieux de valorisation des métiers manuels. Voilà le
programme. Parfait, bonne émission.
Salut, à demain.
Merci, ciao.